VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du jeudi 26 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Plusieurs messages de soutien au Burkina Faso en deuil après les récentes attaques meurtrières des djihadistes.
La Libye et les tensions régionales au centre d'une visite surprise à Tunis du président turc Recep Tayyip Erdogan pour des entretiens avec son nouvel homologue Kais Saied.
En Israël, une primaire aux airs de référendum sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, aujourd'hui au sein du Likoud.
Le pape François réconforte une humanité blessée lors de son traditionnel discours de Noël.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 7 militaires ont été tués hier dans une embuscade. L'attaque a eu lieu dans le nord du pays, au lendemain de la mort de 42 personnes dans une autre attaque. Des détails avec Bagassi Koura.
La patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans le village de Alalé, dans le nord du pays. 7 militaires ont perdu la vie sur le champ, selon des sources sécuritaires. Les premières informations ont fait état de 11 morts. 5 autres militaires ont été blessés. Certains sont portés disparus, selon les mêmes sources qui précisent que l'armée a abattu 5 assaillants. Le Burkina Faso observe un deuil de 48 heures depuis mercredi, après une attaque djihadiste d'envergure qui a fait 42 morts dans le nord du pays. La pire depuis 5 ans, 35 civils, dont 31 femmes, font partie des victimes et 7 militaires, dont 4 soldats et 3 gendarmes, ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée menée mardi à Arbinda, près de la frontière malienne. L'état-major des armées burkinabé indique que la riposte a permis de tuer 80 terroristes.
Le Burkina Faso a reçu hier plusieurs messages de soutien, dont celui du pape, qui dans son traditionnel message de Noël a dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attaque du 24 décembre à Arbinda et exprimé la solidarité des Nations Unies au peuple burkinabé. Inates au Niger hier, Arbinda au Burkina Faso aujourd'hui, ville martyre, victime d'un terrorisme rampant qui nous menace tous. L'Union européenne est aux côtés de l'Afrique dans son combat contre le terrorisme, a tweeté le président du Conseil européen, Charles Michel.
Le conflit en Libye a été au centre de la visite surprise du président turc Recep Tayyip Erdogan à Tunis. Le point avec Abdourahman Dia.
Recep Tayyip Erdogan a rencontré pour la première fois le président tunisien Kais Saied, entré en fonction le 23 octobre. Le chef de l'État turc a déclaré avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen. « Nous avons discuté des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dans le cadre de la relance du processus politique », a dit le président turc, dont le pays appuie militairement le gouvernement d'union reconnu par l'ONU. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays, mais touche aussi les pays voisins, en tête desquels la Tunisie, a ajouté Erdogan. La Tunisie partage une longue frontière avec ce pays plongé dans le chaos et accueille des milliers de Libyens depuis la révolte ayant conduit à la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée entre deux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union basé à Tripoli et dans l'Est un pouvoir incarné par le général Khalifa Haftar qui a lancé en début avril une offensive pour conquérir la capitale. Celui-ci est soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations parfois tendues.
Les gardes-côtes espagnols ont secouru le jour de Noël quelques 200 migrants, hommes, femmes et enfants, qui avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune à partir du continent africain. C'est ce qu'on a appris mercredi auprès d'un porte-parole. En 2019, au moins 1246 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations affiliée à l'ONU.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, 5 combattants pro-iraniens ont été tués mercredi soir dans des frappes aériennes sur la ville de Boukamal, dans la province orientale de Deir ez-Zor. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a fait état de fortes déflagrations dans le secteur, n'a pas pu donner d'indications sur l'origine de ces frappes. Il pourrait s'agir de drones, a déclaré à l'AFP le directeur de l'ONG, Rami Abdelrahman.
En Iran, pendant ce temps, l'accès à Internet a été coupé mercredi dans plusieurs provinces du pays, à la veille de commémorations lancées sur les réseaux sociaux en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de mi-novembre, déclenchées par une hausse du prix de l'essence. La nouvelle a été annoncée par l'agence de presse ILNA. Les autorités confirment la mort de 5 personnes, 4 membres des forces de l'ordre, tués selon elle par des émeutiers et aussi la mort d'un civil. Mais Amnesty International parle de plus de 300 morts.
En Israël, les membres du Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou sont appelés à élire ce jeudi leur nouveau chef, et ce dans le cadre d'une élection primaire réclamée par le principal rival du Premier ministre israélien, Gideon Saar, déterminé à lui ravir le parti. Selon les observateurs, cette primaire aux allures de référendum sur la popularité de M. Netanyahou dans ses propres rangs a peu de chances d'être remportée par le député Saar. Le Premier ministre, le plus pérenne de l'histoire d'Israël, aura la lourde tâche de mener la campagne du Likoud pour les législatives de mars, les troisièmes en moins d'un an, et il est inculpé pour corruption dans 3 affaires.
Dans son message de Noël hier à la Cité du Vatican, le pape François a appelé à la paix et à la réconciliation dans le monde. Le souverain pontife a aussi dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain. Jacques Aristide résume ce discours « Urbi et Orbi ».
C'est un pape souriant qui est apparu sur le balcon du palais pontifical pour prononcer son 7e discours du 25 décembre devant quelques 55 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. Un message de Noël en forme de tour d'horizon d'une humanité blessée, dit-il, sur tous les continents, dont l'Afrique.
Sia pace per la popolazione.
Que le Seigneur apporte la paix à ceux qui vivent dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirés par des conflits incessants. Qu'il apporte consolation à ceux qui souffrent de la violence, des catastrophes naturelles ou des maladies. Et qu'il apporte du réconfort à ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles qui ont été enlevés et aux victimes d'attaques de groupes extrémistes, particulièrement au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria.
Le pape argentin, qui vient de fêter ses 83 ans et qui a fait du soutien des migrants l'une des priorités de son pontificat, n'a pas manqué de critiquer les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin. Dans l'espérance d'une vie sûre, ils finissent par subir des abus innommables, l'esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains, dit-il. Et dans un message de Noël commun diffusé par le Vatican, le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ont en outre encouragé la reprise des difficiles pourparlers de paix sud-soudanais au lendemain de l'annonce de leur ajournement à début janvier.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Malawi recevra 70 millions de dollars du Fonds international de développement agricole au profit de son programme de transformation de l'agriculture par la diversification et l'entrepreneuriat. L'agence Ecofin rapporte que ce nouveau programme consolidera les bonnes pratiques du programme d'amélioration des moyens de subsistance des populations rurales et de l'économie, a souligné Ambrosio Barros, directeur du FIDA pour le Malawi. Le projet cible particulièrement 7 produits de base, le soja, le miel, la viande bovine, la pomme de terre, le tournesol, l'arachide et les produits laitiers. Il pourrait impacter 300 000 familles, dont 11 districts. L'Éthiopie et la Chine renforcent leur coopération dans le secteur de la construction. Selon un communiqué de presse rendu public par l'agence Xinhua, l'Éthiopie a mis en place un plan stratégique de 10 ans pour développer de façon exponentielle le secteur de la construction. Le pays souhaite recevoir une assistance chinoise pour construire des immeubles d'habitation pour des millions d'Éthiopiens qui ne disposent pas de logements adéquats. Pour terminer cette Minute Éco, la Côte d'Ivoire et Proparco, la filiale de l'Agence française de développement, ont signé 3 accords de financement d'une valeur de 32,5 millions d'euros. Le premier accord permettra de développer des opérations de court terme de trade finance spécialisées dans l'émission des instruments financiers tels que les lettres de crédit, les garanties bancaires et les messages de paiement SWIFT. Les 2 derniers accords entrent dans le cadre du projet SANREF qui permet aux entreprises de lutter contre le changement climatique selon Ecofin.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
C'est le Boxing Day et en Première Ligue en Angleterre, Leicester joue sa dernière carte pour perturber Liverpool.
Oui, pas de trêve de confiseur pour le foot anglais qui s'offre même un sommet au lendemain de Noël avec le déplacement du leader Liverpool chez son dauphin Leicester, alors que City restera aux aguets pour la 19e journée de Premier League. La période du Boxing Day le 26 décembre est souvent un moment décisif dans la course au titre. Les Reds ont actuellement une avance de 10 points. Il faut remonter à presque un quart de siècle pour retrouver une équipe en tête avec 10 points d'avance à Noël et qui n'a pas fini championne. Mais en recevant Liverpool, à qui il avait posé de gros problèmes à l'aller, défaite 2-1. Après un pénalty dans le temps additionnel, Leicester a la possibilité de remettre une once de suspense dans un championnat qui, pour le titre du moins, commence à en manquer.
Et hier, Boston gâche le premier Christmas game des Raptors à domicile.
Oui, les Boston Celtics, forts d'un effectif au complet, contrairement aux Raptors, se sont imposés 118-102, gâchant quelque peu le premier match de Noël à domicile de l'histoire de Toronto, mercredi en NBA. Du fait de son statut de champion en titre, Toronto a eu le privilège d'être programmé avec un match sur son parquet, pour ce qui constitue un des jours les plus importants de la saison régulière en termes d'audience télévisée. Face à Boston, un des ambitieux de l'Est, Toronto n'avait pas les armes pour lutter, privé de 3 de ses titulaires, Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell. Ils sont apparus émoussés 2 jours après la défaite à Indiana, qui a stoppé leur série de 5 victoires.
Eh bien, parmi les autres matchs d'hier, un grand choc était attendu entre les 2 équipes rivales de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Ce match s'est terminé par une victoire des Clippers, 111-106. Un autre grand choc, c'était entre Philadelphie et Milwaukee. Ce match a été remporté par Philadelphie, 121-109. Entre Golden State Warriors et Houston, une surprise. Eh bien, Houston a été battu, oui, par les Warriors, qui cette année ne sont pas très bons. Le résultat, c'est 116-104 en faveur de Golden State. Pour ce qui est de la Nouvelle-Orléans et de Denver, le match se poursuit. On aura les résultats dans l'édition de 7h temps universel.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, Washington Forum revient sur les grands sujets qui ont fait l'actualité durant l'année 2019 en Afrique. De la recrudescence des attaques djihadistes dans le Sahel à l'élection de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, en passant par le débat sur le 3e mandat qui fait rage dans certains pays ou encore la réforme du franc CFA. Quel événement vous a le plus marqué durant cette année 2019 et pourquoi? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h temps universel.
La lettre Z, président du Shark Club.
Bouleverser mémoire motemananga zotene misimi songambo po elula kiyo
OLK initiative plus
biteni nyoso ya zotonanga e komiko fundana miso lobi na dala kibeko tala monoko lobi motemambe tindaki na benga.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'affaire Soro en Côte d'Ivoire. Lundi, le procureur de la République, Richard Adou, a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien chef rebelle, ex-premier ministre Guillaume Soro. Il est poursuivi pour, je cite, « tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national ». L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également visé par une information judiciaire pour, citation encore, « détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux de 1,5 milliard de francs CFA ». Pour une analyse sur les implications politiques de ces décisions, Eric Manirakiza a joint à Abidjan l'analyste politique André Siver-Conan.
La situation est calme, quoique on sent certaines tensions. L'Ivoirien serait volontiers passé de ces tensions, surtout pendant cette période de fête, d'autant qu'ils ont encore en mémoire ce fameux 24 décembre 1999. Nous sommes à 20 ans, presque jour pour jour, de ce coup d'État qui a renversé le pouvoir du PDCI d'Henri Konabédé. Et donc, la situation est calme, mais on sent une certaine tension. Pour le reste, les implications, Guillaume Soro, il joue gros, d'autant que à mesure que les jours vont passer, son espoir de se voir président de la Côte d'Ivoire après Ouattara, sinon même candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, ça s'éloigne.
Est-ce que vous pensez que les dés sont jetés?
Non. En politique, on ne peut pas dire radicalement que les dés sont jetés. Mais dans l'état actuel des choses, il est dans une position de faiblesse. Parce que pour être candidat, il faut déjà être en Côte d'Ivoire. Je le vois mal là, être en Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent ou dans les mois qui arrivent. À moins que, d'un côté, le président Alassane Ouattara ait une position diligente, le connaissant, je pense que ça ne sera pas le cas, ou qu'il y ait une sorte d'événement inattendu que je ne souhaite d'ailleurs pas. Pour lui, cela devient très compliqué, mais aussi pour le pouvoir. Je pense que là, ils ont un adversaire coriace qui est à l'extérieur du pays, qui a quand même dirigé une rébellion pendant 11 ans. Et un rebelle, c'est pas un enfant de cœur. Il a été chef de la rébellion très jeune déjà. Il a des soutiens internationaux. Il a aujourd'hui, du fait même justement des tracasseries du pouvoir RHDP, une certaine assise internationale. Il a des soutiens sur le plan national. Il commence à avoir de la sympathie, parce que vous savez, les peuples aiment bien sûr les victimes. Il commence à avoir de la sympathie au sein de l'opinion pour lui. Et donc, à mesure qu'on avancera vers son exclusion, parce qu'il est clair que derrière toute cette bataille politico-judiciaire se cache un enjeu électoral empêché par tous les moyens, y compris juridiques, Guillaume Soro d'être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, à mesure qu'on avancera, la situation deviendra intenable pour les deux camps.
S'il rentre et qu'il est arrêté, il va beaucoup plus jeûner qu'en étant à l'extérieur.
Je ne sais pas si il entrera. On n'a jamais vu un dirigeant, un politicien africain aller se jeter dans la gueule d'un loup, surtout d'un pouvoir qui a une main de fer. J'ai jamais vu ça nulle part. Ce serait d'ailleurs la pire des erreurs pour lui de rentrer, de se faire arrêter, mais vraiment, parce que une fois que vous êtes en prison, vous ne maîtrisez plus vos mouvements, non, ce serait une stratégie improbable, d'autant que, je ne garantis pas de l'équilibre, de la transparence, surtout de l'équité de la justice en Côte d'Ivoire. Vous êtes témoin de l'actualité politique ivoirienne. Depuis donc l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir, la justice a quasiment frappé presque le camp des dissidents. Et rappelez-vous, cette affaire de mandat d'arrêt aussi est arrivée à Alassane Ouattara. Hein. En 1999, alors que Bédié était au pouvoir, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Et les autorités rigolaient en disant il n'a qu'à venir répondre au mandat d'arrêt. Et Alassane Ouattara répétait à l'envi je n'irai pas me jeter dans la gueule du loup. Je pense que l'histoire est en train de se réécrire et c'est un recommencement.
l'analyste politique André Siver-Conan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République démocratique du Congo, les partisans de l'ex-président Joseph Kabila ont rendu en début de semaine les résultats de leur autopsie de l'échec d'Emmanuel Ramazani Shadary, leur candidat à la présidentielle d'il y a un an. Ils ont aussi passé au peigne fin l'état de leur coalition tumultueuse avec le vainqueur de cette élection, le président Félix Tshisekedi. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur du Front commun pour le Congo, le FCC, et ancien directeur de cabinet de M. Kabila, Néhémy Mouilania.
Nous sommes vraiment fiers d'avoir contribué à la stabilité du pays à travers l'installation des institutions, mais en même temps, nous nous sommes bien regardés dans le miroir, et compris que nous avons trébuché. Il y avait une responsabilité partagée.
Et justement, d'après vous-même, quelle a été la raison de l'échec de votre candidat à la présidentielle?
Il y avait une conjugaison de facteurs. Il y en a qui avaient pensé que l'annonce tardive de la candidature y était pour beaucoup. D'autres ont pensé que les doutes qui avaient plané pendant longtemps sur l'organisation des élections, alors qu'il n'y avait pas de mystère, parce que le président Kabila avait dit clairement que les élections allaient être organisées. Et d'autres encore ont pensé que la campagne de diabolisation qui avait été menée systématiquement de l'extérieur contre le président Kabila et ses proches avait contribué justement à la désinformation. Et ce qui fait que le bilan du président Kabila et de son équipe n'avait pas une visibilité. Donc, bref, il y avait beaucoup de facteurs, mais le plus important, c'est de réaliser après le recul ce qui était objectif, de le corriger, et tout ce qui était subjectif tombe de soi-même.
Ça fait presque un an que vous êtes en coalition pour diriger le pays avec les caches du président Félix Tshisekedi. Quelle lecture faites-vous vous-même de cette coalition, parce que l'on constate des frictions, des altercations presque chaque deux semaines entre vous?
Pour nous voyons le phénomène, nous ne voyons pas les épiphénomènes qui du reste sont pour les uns dus au tempérament de certains acteurs et qui de nature sont agitateurs, et pour les autres, en fait, c'est une première expérience qui n'a jamais été connue, et donc il y a matière à apprentissage.
Qu'en est-il alors du retour politique de l'ancien président Joseph Kabila? Parce qu'à un moment, ça avait été annoncé par l'FCC et on avait même vu des affiches annonçant un grand meeting pour le 24 décembre.
Le président Joseph Kabila reste un acteur majeur de la scène politique congolaise. Non seulement il a réunifié ce pays, il a rebâti l'État qui n'existait plus, mais également il a avancé le processus de reconstruction de modernisation de ce pays. De ce point de vue, au-delà de sa propre volonté, à travers tous les pays, au-delà d'ailleurs, il a des sympathisants, il a de ses fans, il a des militants qui le soutiennent de partout et qui peuvent prendre des initiatives de toutes sortes pour montrer qu'ils tiennent à son leadership.
Parler d'échéances à venir, peut-on s'attendre à ce qu'il brigue dans l'avenir un autre mandat?
La question est trop prématurée. Ce qui est essentiel, c'est le rôle qu'il joue déjà aujourd'hui.
Néhémy Mouilania, coordonnateur du Front commun pour le Congo et ancien directeur de cabinet de M. Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont lancé mardi la réponse humanitaire en faveur de quelques 180 000 victimes des inondations dans les régions du nord du pays. La cargaison qui a quitté le port fluvial de Brazzaville transporte des médicaments, des vivres et autres fournitures. Notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
260 tonnes de vivres et non-vivres ont marqué mardi du port de Brazzaville. C'est le cadeau de Noël pour les 180 000 victimes des inondations dans le nord du pays. Il s'agit d'une centaine de cartons de médicaments de première nécessité, les savons, les nattes ou les seaux. On remarque également sur la barge qui a quitté le quai de la sardine, du riz, de l'huile et du sel. La ministre en charge de l'action humanitaire, Antoinette Dinganjodo, a assisté au départ du bateau dans le voyage, supervisé par son directeur de cabinet, pourrait durer un mois.
Et là-dedans, nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres, plus des médicaments pour chaque localité. Et pour avoir ces vivres et non-vivres, ce n'était pas facile. Les fournisseurs n'avaient pas toutes les quantités. Il a fallu faire venir de Pointe-Noire. Les équipes qui partent sont constituées de gens formés, civils et militaires. La Croix-Rouge va nous aider et les équipes vont travailler main dans la main. Là, c'est le bateau qui part. À partir de cet après-midi, nous commençons à charger les camions qui vont partir par la route.
Le gouvernement qui avait lancé un appel à l'aide à la communauté internationale a pu réunir sous fonds propres 400 millions de francs CFA pour organiser cette première réponse humanitaire. Elle va viser 30 ménages dans 21 districts des plateaux, de la cuvette et surtout de la Likwala où on compte le plus de victimes des inondations. Fidèle Dimou, le ministre des Transports, était également au port fluvial de Brazzaville.
Et surtout en cette période de crue, c'est le moment idéal pour que les bateaux puissent naviguer en toute sécurité de Brazzaville jusqu'à Bangui via les localités riveraines du Congo.
Le transport de cette aide humanitaire est assuré par la société Socotraf. Son directeur Alphonse Cani prévoit des endroits de dure navigabilité.
Quand nous rentrons dans les affluents, c'est une navigation un peu périodique à tel point qu'un bateau comme celui-ci ne peut pas naviguer. Donc il y a des petites unités qui peuvent prendre le relais. Mais le fleuve en lui-même, il est navigable. Donc on a essayé d'armer le bateau pour qu'il puisse atteindre Bétou sans problème.
L'aide du gouvernement va s'ajouter à ce que font déjà les organisations internationales comme le PAM et le ICR, permettant ainsi à ces sinistrés de passer d'heureuses fêtes de fin d'année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Somalie, face à la multiplication des attaques des insurgés d'Al-Shabaab, les autorités installent des caméras à Mogadiscio, la capitale. Les habitants et les commerçants locaux s'en réjouissent, mais certains spécialistes doutent de l'efficacité de cette initiative. Reportage de Mohamed Cheikh Nor, repris ici par Lionel Gahima.
L'installation des caméras en circuit fermé a commencé ce mois-ci aux intersections des grandes artères de la capitale somalienne, comme l'avenue Maka al-Mukarma qui mène au palais présidentiel. La vidéosurveillance vise à prévenir les activités criminelles, explique Abdoulani Farah, directeur des affaires juridiques au ministère somalien de la sécurité. Ces caméras réduiront les attaques terroristes, ils décourageront les terroristes en suivant tous leurs mouvements. La population est très contente et pense que c'est un pas en avant. De nombreux habitants et commerçants de Mogadiscio se félicitent du déploiement des caméras dans le centre commercial, un secteur souvent pris pour cible par les militants islamistes. Dega Salad est une femme d'affaires locale.
Ces caméras vont décourager toute activité criminelle. Même les petits voleurs voudront les éviter par crainte d'être attrapés.
Le politologue Hassan Baris ne partage pas cet optimisme. La vidéosurveillance, souligne-t-il, ne peut rien contre les kamikazes. Ceci étant persuadé que leurs récompenses les attendent dans l'au-delà. Les autres ont subi un profond lavage de cerveau ou ont été sérieusement conditionnés à ne rien craindre. Ils sont persuadés qu'ils iront au paradis. Les caméras elles-mêmes auront besoin d'être protégées contre les actes de vandalisme. Elles seront surveillées de près par une équipe spéciale, a assuré Ibrahim Hadji, directeur de la communication au ministère de la Défense. Par ailleurs, les autorités somaliennes entendent accélérer la formation et le déploiement des policiers et des agents de services de renseignement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.